J'enchaîne tout de suite, je donne la parole à Bogumil Zevzeviki.
Merci beaucoup, et merci surtout Jean-Pierre, Olivier Burka et les autres pour l'invitation, pour cette occasion, de vous montrer à la fois quelque chose qui peut vous paraître très éloigné et qui en même temps, je pense, rejoint entièrement, si pas nos préoccupations, au moins notre situation aujourd'hui en Occident. Je vais vous montrer tout à l'heure une série d'œuvres d'art, donc une série de tableaux, des photomontages et des sculptures, par rapport auxquels, tout à fait légitimement, nous pouvons déployer toute une analyse concentrée sur les caractéristiques esthétiques, lesquelles, en même temps, dans la société à laquelle les premiers tableaux que je vais vous montrer appartiennent entièrement, d'autres se situent quelque part à la frontière mouvante entre, au seuil, on pourrait dire, entre les locales et les globales. Et une seule observation préalable, très rapide, ça n'enlève rien à l'air capacité de susciter des réactions, des sentiments esthétiques, etc., en nous-mêmes. Dans la société dans laquelle ces objets d'art sont actifs, il s'agit essentiellement, et pas exclusivement, des objets du pouvoir, c'est-à-dire des objets qui, tout un temps, sont des objets ordinaires, sans aucune valeur, donc ce n'est pas du tout des objets sacrés, mais qui, à l'intérieur d'une performance, c'est-à-dire là où l'objet rencontre à la fois un groupe de personnes avec des caractéristiques sociales différentes, mais surtout des personnes qui partagent une mémoire, à la fois ce que Jan Assmann appelle mémoire culturelle, donc cette mémoire très très longue qui est une sorte de dispositif de sensibilité qui ne sont pas nécessairement conscients mais qui existent dans un groupe, on avait l'habitude de dire dans une culture, mais qui aussi mobilise une mémoire relativement à court terme, une mémoire historique et en même temps une mémoire immédiate dans le sens des caractéristiques, des objets, etc. Donc voilà ce qui va être mis en scène et c'est quelque chose d'important parce qu'il faut comprendre que, différemment de nos habitudes, un masque, parce que la même chose est avec toile, un masque dans une société rurale en Afrique est un objet banal tant qu'il ne danse pas. Et quand il danse, c'est évidemment un dispositif entier, c'est-à-dire c'est la personne qu'il porte, c'est les masques qui dansent, qui performent, et en performant d'une certaine manière dans les miroirs et dans les attentes de la mémoire des performances précédentes, il permet de mobiliser une série de forces, une série de forces à la fois, que ce soit des ancêtres, que ce soit des esprits, etc., qui sont en mesure, dans cette performance, d'opérer quelque chose à l'intérieur du social, qu'on appelle le plus souvent par une sorte de métaphore de guérir. Mais guérir ne veut pas dire guérir une maladie, guérir veut beaucoup plus dire rééquilibrer les rapports sociaux à la fois par rapport aux individus, par rapport aux groupes, etc. Et donc, à une autre échelle, ces tableaux que je vais vous montrer d'abord font exactement la même chose. Est-ce que je pourrais avoir la première image? Est-ce que j'ai... Il n'y a rien. Non, ça, c'est la deuxième. Je veux la première. Voilà. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un tableau qui, entre les années 70 et 90, s'est retrouvé en dizaines, peut-être une centaine de milliers d'exemplaires dans des maisons des gens les plus ordinaires au Congo. Il s'appelle Inakale, on les retrouve aussi au Congo-Brazzaville, où on les retrouve souvent en période de transition politique sous forme des caricatures dans le journal. Bon, d'où vient Inakale? On dit, mais là, l'étymologie n'est pas certaine, que ça viendrait de l'expression française, ça, Calais, qui a été transformé, lingalisé, si je peux dire, par rapport à la langue dominante à Kinshasa, mais dont l'objectif essentiel est d'exprimer la situation des blocages. Et c'est exactement, je vais vous montrer une série de tableaux, c'est sur cette situation des blocages d'une société coincée, d'une société qui n'arrive pas non plus à trouver une vision pour s'en sortir, donc qui n'arrive pas, on pourrait dire, en termes de notre colloque, à recréer le monde, qui est coincé à la fois dans le monde qui existe et qui est coincé dans l'imaginaire de ce monde dont il n'y a pas d'issue. Si vous regardez ces tableaux, donc vous voyez l'homme qui grimpe à l'arbre et qui perd son couteau, qui est donc totalement à la merci des trois adversités. Les serpents en haut, les lions en bas et les crocodiles dans l'eau. En soi, ça paraît une histoire quelconque. Sauf qu'il faut savoir qu'évidemment, les serpents, c'est le péché, c'est le serpent de l'imaginaire chrétien, que les lions, c'est l'État. Et ça, dans les représentations politiques congolaises, selon l'endroit, enfin la région, disons, d'où viennent les hommes politiques dominants, c'est soit les lions, donc les prédateurs de la savane, soit c'est les léopards, dans le cas de Mobutu, il s'auto-représentait d'ailleurs lui-même en léopard, puisqu'il portait toujours sa toque de léopard, et c'est évidemment les plus forts prédateurs de la forêt. Donc, c'est les crocodiles en bas, c'est l'euphémisme le plus souvent utilisé pour la sorcellerie, puisqu'évidemment on ne parle pas en public des choses de ce genre-là. Donc, la sorcellerie est souvent imaginée, présentée en public par les crocodiles. Donc, ce que nous voyons, c'est cet homme qui est coincé, comme les gens disent, nous sommes coincés, nous sommes calés, il n'y a pas de sortie. Et cet imaginaire-là, vous voyez, il aboutit évidemment dans une série de représentations qui, on pourrait dire, confirment ou développent cette perception. Ce que vous voyez ici, c'est les sabbats des sorciers, en très moderne en même temps, avec des lignes téléphoniques, avec des oiseaux qui font des avions, avec et évidemment avec toute la représentation genrée pour laquelle nous n'avons pas le temps. Les plus dangereuses, ce sont les sorcières, et donc de leur vagin sortent les flammes de l'enfer. Donc, en même temps, on voit bien, c'est une sorcellerie, mais très profondément christianisée au niveau de l'imaginaire. Ce n'est plus une sorcellerie ancienne. C'est évidemment l'Apocalypse, la fin du monde, à l'autre bout, et on est là, on est dans cet imaginaire chrétien que finalement les Congolais ont réussi à arracher aux Occidentaux, qu'ils ont réussi à traduire dans des centaines, dans des milliers d'églises qui naissent et disparaissent, qu'on recrée dans ces innombrables prophètes et prophétesses, parce que les femmes commencent à avoir l'accès à cette action de pouvoir et qui, évidemment, dans la plupart des cas, n'ont pas de succès, n'ont pas de fidèles, donc disparaissent. Et cet imaginaire chrétien, je voudrais les souligner ici, vous avez une représentation de Lumumba dans cette peinture populaire. Évidemment, on ne se trompe pas. Ça ne demande aucun commentaire pour comprendre l'essence. Donc, pour conclure, avant de vous présenter sortie, on est effectivement, jusqu'aux années 2000 à peu près, dans une sorte des représentations du monde qui tournent en rond. C'est-à-dire, inacalé, il n'y a pas de sortie. La seule possibilité qu'on est capable d'imaginer, c'est l'Apocalypse. Que cette Apocalypse soit explicitement chrétienne, qu'elle soit plus implicitement dans la sorcellerie ou qu'elle soit sous forme de l'État prédateur qui détruit les gens, il n'y a pas de sortie, on est coincé. Et donc, ces premiers tableaux que je vous ai montrés, les plus populaires, mais ça ne veut pas dire que les autres sont inconnus, est tout à fait naturellement un tableau qui domine. Comment ça fonctionne en deux mots? Ces tableaux se retrouvent dans les salons, bon, se retrouvent aussi dans les bars, mais on n'a pas le temps pour cet autre lieu, dans les salons des gens très ordinaires, des petites maisonnettes, ouvriers qualifiés, enseignants primaires, petits employés, c'est pas du tout la grande société. Et quand les hommes se réunissent pour prendre une bière au salon, c'est autour de ces tableaux, d'une certaine manière, qu'on organise, on dirait nous, une sorte de jute mémorielle, de performance de mémoire. Parce que les gens disent, ah, mais ça, tu sais, c'est arrivé à un tel, ah, mais non, non, mon oncle, hein. Donc, on a une série de performances de mémoire familiale individuelle, qui sont souvent des mémoires empruntées, mais c'est parfaitement normal dans le fonctionnement. C'est pas nécessairement un oncle, c'est quelqu'un d'autre qui a raconté, mais on prête ça à un oncle. Donc, on déploie une sorte de tentative collective, mais composée d'histoires individuelles, composée des vies, pour essayer de comprendre et pour essayer de représenter, donc, en d'autres termes aussi, pour essayer de réinventer le monde, si cette réinvention est possible. Bon, par rapport à ce qui est, on pourrait dire, la norme de comportement dans la société urbaine et la norme des recherches d'une manière de réimaginer le monde, sauf qu'on est coincé dans cette, on pourrait dire aussi, dans cette temporalité, dans ces régimes d'historicité qui ne voient que le futur, qui est aussi révolutionnaire, comme nous dit François Hartog. Et dans ça interviennent, dans les années 2000, deux artistes, parmi d'autres. D'une part, le premier que je vous présente ici, Sami Baloji, qui est un jeune photographe dans une des grandes villes à Lubumbashi, donc la grande ville minière, la grande ville industrielle, qui est pour nous un autodidacte, qui est pour la formation d'artiste, artisan, quelqu'un parfaitement formé, puisqu'il a fait l'apprentissage chez un photographe de studio local. Donc, il a fait son apprentissage de photographe local. Évidemment, il détourne cet apprentissage lorsqu'ensuite il entre en contact avec des photographes occidentaux. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est exactement la manière comment il rompt cette situation sans issue en retravaillant deux éléments, archives d'une part, puisque ce que vous voyez ici au premier plan, c'est des images d'ouvriers des années 1910, début des années 20, de la grande entreprise minière, l'Union minière du Haut-Katanga, découpées dans les archives photographiques. C'est-à-dire qu'il s'est produit quelque chose qui est purement accidentel. L'entreprise est totalement en liquidation à cette époque et quelqu'un s'est mis à vendre dans la rue les photos des archives photographiques. Et donc, la présence d'esprit de les racheter, la petite antenne culturelle française a aidé à digitaliser et Sami se trouve devant ces photos et donc il oppose voulait les désastres industriels, c'est-à-dire ces installations totalement désindustrialisées, abandonnées, c'est ça sa grande ville, c'est ça la grandeur de l'Union minière qui nourrissait tout le monde, mais ces situations de désindustrialisation, nous le connaissons à travers le monde. Et à ça, il oppose ce qu'on peut lire comme une possibilité de sortir des renouveaux. Qu'est-ce qu'ils sont, ces gens-là? C'est des ancêtres de la modernité locale, c'est des ancêtres de l'industrialisation. C'est-à-dire, ce n'est plus la colonisation, ce n'est plus les Blancs qui ont fondé l'industrialisation, ce sont nos ancêtres, les ancêtres de la société urbaine, donc ceux à qui on a l'affiliation et ceux qui peuvent nous permettre de reconstruire le monde, de réinventer le monde. Mais pour que ça soit possible, on se trouve dans une sorte de dispositif qu'on retrouve en même temps dans la culture, appelons la villageoise de la région, la culture rurale, c'est-à-dire les mythes des récréations, des reconstitutions du monde, est aussi un mythe des ruptures, est un geste qui demande qu'on pose quelque chose, un geste qu'un homme ordinaire ne peut pas poser sous peine de destruction. Ils sont tous nus. C'est qui, pour un homme adulte, un homme plus que pour une femme, est vraiment la pire des choses qui pourraient arriver. La nudité en public détruit la réputation d'un homme pour la vie. Il n'en fait rien. À ça, il faut ajouter évidemment la Bible et Cam qui renforce l'histoire. Oui, donc, il y a une sorte de renforcement du mythe ancien qui devient un dispositif actuel. Et donc, ce sont ces ancêtres-là qui permettent, comme aurait écrit Derek Walcott, enfin, comme il a écrit, mais par rapport aux Antilles, c'est-à-dire permet l'appropriation des ruines. Désormais, ces ruines que vous voyez en arrière, ces ruines des autres, d'une certaine manière, deviennent nos ruines. Et donc, en appropriant ces ruines, on s'approprie la capacité de réinventer un avenir à partir de ces ancêtres qui amenaient sur ces sites esclaves, puisqu'ils sont souvent amenés la corde à la cou parce qu'ils s'enfuient à cette époque, sont des gens qui peuvent transmettre leur capacité de travail, de résistance, de reconstruction du monde. Voilà, donc, est-ce que c'est... non, bon, il y a un peu de désordre. On reviendra à quelques images de Balogi s'il reste du temps. Deuxième artiste dont je veux parler... C'est Freddy Tsimba, c'est un sculpteur, mais qui se présente comme sculpteur au chalumeau. Je vais vous montrer tout à fait son image. La clé pour comprendre comment il fonctionne, c'est cette figure d'Enkissi. Donc, attendez, ouais, là, il y a malheureusement un désordre dans les images. Bon, je vais essayer de parier à ça. J'ai encore 10 minutes.
Oui,
donc,
5 minutes.
Ce qui est intéressant dans la figure d'Enkissi, ça concerne la région côtière, on est de l'autre côté du Congo, donc la côte occidentale, la culture Congo. Et dans la culture Congo, les Enkissi sont, comme on avait l'habitude très fâcheuse de dire, des grands fétiches. C'est-à-dire, ce sont ces grands dispositifs qui permettent à leurs opérateurs d'organiser des performances permettant de rééquilibrer les forces sociales. La caractéristique spécifique de Senkissi, c'est que, dans les différents moments de l'opération, on n'a pas le temps, on enfonçait dans les corps, donc cette fois-ci anthropomorphes, ils n'étaient pas nécessairement toujours anthropomorphes, des objets métalliques habituellement, d'où on l'appelle fétiche à clous dans la littérature européenne. Et chaque objet métallique, chaque clou, en fait, représente la mémoire d'un événement, d'une personne, d'une action dont il est question. Donc, à la longue, un Enkissi devient une sorte d'archive d'histoire et son action, évidemment, avec son opérateur, permettait de résoudre. C'est donc, si vous voulez, archive ou bibliothèque, peu importe maintenant comment. Et évidemment, plus il y en avait, plus grande était la force de ces fétiches, puisque, on pourrait dire, plus riche était la mémoire autour de lui. Et donc, plus puissant il devenait. Parmi les grands Enkissi, à la fin du 19e siècle, il y en avait qui gardaient le marché dans cette région proche de la côte importante, qui garantissait la paix sur le marché, et ces grands Enkissi étaient extrêmement réputés. En même temps, c'est indiscutablement des œuvres d'art. Il y a plusieurs de ces grands Enkissi dans les musées occidentaux, et c'est effectivement sur les plans, je dirais, purement esthétiques, des sculptures qui ont une présence écrasante. Cette histoire est en grande partie effacée dans la mémoire vive, puisque les grands Enkissi ont été soit achetés à la fin du 19e, tout début du 20e, soit détruits par les missionnaires. Ça a été accéléré avec les mouvements chrétiens, essentiellement kimbanguisme, qui éloignent d'une certaine manière les gens des pratiques anciennes. Donc les Enkissi survivent, mais sous forme des petits objets et qui servent à conjurer les sorts, etc. Mais les gens habituellement à Kinshasa comme ailleurs, comme à Brazzaville et ailleurs, ne les connaissent pas du tout. Freddy Tsimba, un artiste de Kinshasa, lui formait à l'Académie des Beaux-Arts, mais quand il a terminé l'Académie, il a décidé que la vraie école d'art est dans la rue et chez le forgeron, et donc il est parti faire 2 ans d'apprentissage chez le forgeron de la région. Il est par ses parents de la culture Congo, je dis par ses parents parce que lui, il est né à Kinshasa, il a été une seule fois à l'âge de 5 ans dans sa vie au village, et son seul souvenir du village est d'avoir vu un grand poisson qu'on a pêché et avoir peur de sa vie que le poisson va le manger. Donc c'est pour dire, il n'a pas de connaissances directes jusqu'au jour où, il est déjà artiste, une caméra les suit à l'exposition d'art africain au Palais des Beaux-Arts en Belgique et on les voit sur la vidéo, c'était ma grande surprise et ensuite le début de mon analyse, devant un kishi, il dit, mais ça vient de mon village. Et évidemment, le sens village, c'est dans le sens de région de ma culture, pas dans le sens village précis. En fait, si vous regardez ces œuvres et la manière comment il les crée, comment il les confectionne exactement à la manière d'un kishi. Ici, cette œuvre qu'il appelle « Au-delà de l'espoir », donc une femme qui porte un enfant qui potentiellement est l'enfant soldat, c'est fait à l'époque de la guerre civile, cette femme souffrante, mais en même temps la seule garante de survie de la société, est entièrement en fait de douilles de balles. Et quand on parle avec lui, il dit, tu vois, mais chaque douille, c'est l'histoire d'une vie. Quelqu'un a été tué, quelqu'un a échappé, quelqu'un a tiré, peut-être qu'il a encore des remords aujourd'hui pour avoir tiré, c'est un chrétien, il a commis un péché. Donc, Tsimba construit sur la manière d'un kishi une série d'œuvres, là, mon temps expire, qui sont essentiellement des œuvres liées autour de cette question de survie et de la vie, comment assurer la continuité d'une société alors qu'on détruit les femmes et les enfants. Et donc, ça tourne très largement autour du ventre. Et il a toute une mythologie à la fois du chiffre 9, puisqu'il dit 9, c'est 9 mois de grossesse, comme il a toute une mythologie autour des 1000. Mais ça, on a... Pourquoi est-ce que ça bloque ? Non, j'arrive pas à sortir. Non. Bon, on sera obligé de nous limiter à ces quelques...
Voilà, de toute façon.
Oui, des exemples, je voulais vous en montrer d'autres. Mais donc, je reviens dans ce qui est effectivement ma conclusion, mon temps vient. On voit bien comment l'un et l'autre, d'une certaine manière, retourne sur les ressources internes, sur la mémoire interne de la société, mais y compris cette mémoire extrêmement longue, mémoire culturelle, dans un cas ou comme dans l'autre, puisque, comme je dis, c'est Nkissi, personne n'en a vu à Kinshasa. Il n'y a pas de musée d'art à Kinshasa, il n'y a pas de livre d'art. Tsimba lui-même ne les a pas vus jusqu'à ce qu'il se trouve face à quelque chose qui lui fait revenir cette mémoire culturelle, mémoire visuelle, mais tant l'un que l'autre construisent, mais cette fois-ci, à la fois pour le public local et pour le public global, puisque l'un et l'autre sont des artistes qu'on appelle aujourd'hui internationaux. Mais l'un et l'autre, par exemple, Tsimba a fait exactement comme on fabriquait des nkissi, il a fabriqué avec 1000 machettes, ce qu'il appelle maison machette, qu'il a exposé à l'un des grands marchés de Kinshasa, et où il a provoqué toute une performance, y compris, comme la marchette sert maintenant à terroriser les gens, à les tuer, performance d'un jeune homme qui, entré en transe, jurait que la machette ne servira plus jamais à tuer quiconque, que la machette, c'est pour débroussailler, pour cultiver, etc. Donc, je veux dire, ils ont en même temps une présence dans la société, dans leur société, ce n'est pas uniquement des choses extérieures. Balogi organise aux 2 ans un festival d'art picha à Lubumbashi. Donc, mais c'est pour conclure dans la minute qui me reste, les dispositifs de l'un et de l'autre, c'est de représenter, mais à la manière contemporaine, les passés anciens, l'utiliser comme tremplin, mais en même temps s'en servir comme un dispositif universel, comme dispositif global. Si vous prenez cette figure, par exemple, cette silhouette d'une femme enceinte éventrée, faite des douilles de balles, ben, si vous lisez « La fin de l'homme rouge » de Svetlana Alexeïevitch, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez ces chapelets des vies totalement inutiles, des vies totalement broyées, des vies qui n'offrent plus aucune possibilité de récréation, sauf par un détour créatif. Et je pense que c'est ça que l'un et l'autre font. C'est-à-dire qu'ils réimaginent le monde, mais ils ne le réimaginent pas dans l'abstrait. Ils le réimaginent en essayant de retrouver des continuités, donc en essayant de rendre présentes, actuelles, des éléments des cultures anciennes, mais non pas en tant que survivance, mais en tant que dispositif permettant éventuellement de reprendre le contrôle, donc permettant éventuellement à ce que l'espoir éclot dans cette situation des misères et des blocages. Merci.
Merci, Bogumil Jevzeviki. Bien, écoutez, je crois qu'on est un peu en retard ou... Ça va à peu près ? Combien de temps on a pour le débat ? 10 minutes. Donc, je ferai éventuellement des commentaires, mais je voudrais d'abord laisser la parole à la salle, tout de suite. Si des questions surgissent, monsieur, ouais, vous avez... Oui, je ne retiens pas votre nom, mais vous êtes intervenu tout à l'heure, donc...
Pierre Meuglin.
Oui.
J'aurais deux questions... Deux
à chacun.
Une pour chacun, pardon, une pour chacun. D'abord, pour Annette Wieworka, ce que vous avez dit sur le rôle de la contrainte pour la création, est-ce que c'est vraiment nouveau ? Je veux dire, est-ce que il faut attendre l'Oulipo pour que ça arrive ? Est-ce que, par exemple, quand on prend la préface du site de Corneille, on ne retrouve pas cette même idée où Corneille explique que non seulement les règles, la règle des trois unités ne l'a pas gêné, mais même qu'il s'en est servi pour faire mieux que ses concurrents, en gros. Hein. Autrement dit, est-ce que ce n'est pas une constante dans toute activité créatrice depuis qu'on pense, on réfléchit les questions de création ? Et quant à la dernière intervention, que j'ai trouvée aussi très intéressante, mais j'ai été frappé par le fait que vous semblez mettre sur le même plan des œuvres qui sont des productions populaires, et des œuvres d'artistes, uniques d'ailleurs, sans doute, à certains égards. Est-ce que pour vous, elles sont absolument sur le même plan ? Ou bien est-ce que les secondes, celles des artistes, se nourrissent et prolongent les premières ? Est-ce que, par exemple, les premières ne seraient que des arts de la mémoire, tandis que les secondes seraient une vraie tentative de penser un autre débouché ?
Vous pouvez répondre tout de suite.
Bon, alors d'abord, je dois dire que je ne suis pas une spécialiste de l'Oulipo. Hein. C'est un jeu auquel je me suis livré pour essayer de faire ressortir certains aspects du métier d'historien. Vous avez parfaitement raison sur la question des contraintes. Toute la poésie classique, le sonnet, la question de la rime, c'est, la littérature est pleine aussi de contraintes. Il me semble quand même que celles de l'Oulipo sont particulières. D'abord parce qu'elles ne sont pas des règles, mais elles sont des contraintes individuelles. Et le grand exemple, c'est quand même le plus grand de tous les écrivains de l'Oulipo, que nos collègues étrangers ont probablement lu aussi, c'est quand même Pérec, de très loin. Et la disparition de Pérec, faire tout un roman sans qu'il y ait la lettre E,
oui, c'est
une contrainte qui n'appartient qu'à Pérec. Celui qui dirait « je vais faire comme Pérec un roman sans E », il aurait l'air ridicule. Donc je pense que les contraintes sont très particulières. Il y a beaucoup de mathématiciens à l'intérieur de l'Oulipo, hein, par exemple Lyonnais, par exemple Roubaud. Parmi les femmes récemment venues à la littérature, vous avez Michèle Audin, qui est la fille de Maurice Audin, que vous connaissez pour la façon dont il a été assassiné pendant la guerre d'Algérie, qui, comme son père, et dont la thèse a été soutenue in absentia à la Sorbonne, on n'avait pas la certitude de sa mort. Donc Michel Audin a aussi rejoint l'Oulipo. Donc il y a beaucoup de mathématiciens qui se mettent des contraintes de type mathématique. Donc je pense que la contrainte est inhérente à la création. C'est ce que j'ai dit pour l'histoire, on a des règles. Donc chaque discipline a des règles, mais que l'Oulipo, c'est particulier, c'est-à-dire vous avez les règles générales et vous avez les contraintes que chaque individu se met pour créer son labyrinthe et en sortir. Et je crois qu'un chercheur, qu'un chercheur qui cherche à faire quelque chose, qui ne cherche pas à répéter ce que les autres ont fait. En histoire, vous avez énormément de choses qui sont répétitives. Par exemple, je donne un exemple, dans mon champ, on a fait toute une mission d'études sur la spoliation des Juifs. Et ben, ensuite, vous avez la spoliation des Juifs à Grenoble, la spoliation à Lyon, la spoliation dans toutes les villes, la spoliation dans tous les corps de métier. On produit de la connaissance, mais il n'y a aucune originalité. Donc chaque chercheur qui veut faire un peu preuve d'originalité aux règles de sa discipline se rajoute, crée son propre labyrinthe. C'est un peu ça que je voulais montrer pour l'histoire. Mais vous avez raison, il n'y a pas de création sans règles, y compris sans transgression d'une règle. C'est intéressant les poèmes qu'on a entendus tout à l'heure en ouverture. Vous avez Baudelaire qui respecte en gros les sonnets. Enfin et vous avez Apollinaire qui a une poésie plus le vers libre. Enfin, donc on voit bien qu'on peut avoir de la grande poésie l'un comme l'autre. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Bon, très très rapidement, évidemment, vous pouvez dire il y a un saut qualitative en même temps, je ne suis pas certain. C'est-à-dire, il y a d'autres moyens d'expression de ces petits tableaux peints par dizaines, puisqu'il faut bien vivre, il faut manger. Un tableau comme ça se vendait pour à peu près l'équivalent entre 5 et 10 bouteilles de bière. Donc ça se vendait pour presque rien. Et évidemment, par rapport à ces œuvres qui sont des grandes dimensions, mais en même temps, tant l'un que l'autre affiche une intention très claire de pouvoir être présent localement. Évidemment, on ne peut pas mettre les photomontages des balogis en 2-3 mètres de long dans la petite maison congolaise, impossible de le mettre. Les sculptures de Tsimba sont aussi des sculptures extrêmement grandes, mais tant l'un que l'autre se réclament d'une continuité, y compris d'une continuité d'apprentissage à l'intérieur de la culture, fonctionne à l'intérieur d'une mémoire culturelle très claire. La seule différence est évidemment que aussi bien Balogi que Tsimba sont aujourd'hui montrés en Occident, que leurs œuvres commencent à circuler sur le marché de l'art et que qu'il y a un changement, mais il y a un changement que nous voyons à travers ces œuvres, mais qui, je pense, en même temps, sont vraiment des témoignages de la profonde transformation de l'imaginaire, c'est-à-dire de la recherche. Et ça, c'est vraiment la nouvelle génération, celle née après l'indépendance, qui cherche la sortie dans les ressources internes, dans la mobilisation des ressources internes, en sautant, comme ils le disent explicitement, la génération des pères, puisque les pères sont des incapables, ce sont ceux qui, non pas seulement n'étaient pas capables de sortir la société de la situation postcoloniale, mais qui, comme on dit au Congo, ont bouffé l'indépendance. C'est-à-dire qu'ils sont appropriés de tous les avantages de l'indépendance, comme les jeunes gens disent. Quand toi, tu allais à l'école, les fournitures scolaires, les objets, étaient gratuites. Tu avais même une culotte et une chemise qui étaient données gratuitement. Quand tu allais à l'hôpital, tu payais rien. Nous, on doit payer l'école. Quand on va à l'hôpital, on doit payer tout. Bref, vous avez tout bouffé. Vous ne nous avez rien laissé. Il n'y a pas eu de transmission générationnelle de la modernité, elle était rompue, d'où la nécessité de chercher des ancêtres ailleurs, c'est-à-dire de laisser en plan le père et de trouver des ancêtres ailleurs. Ces ancêtres ne sont plus dans l'autre monde, ils sont dans la génération précédente, dans celle. Et donc là, vous avez cet autre étape de passage dans l'imaginaire. Ce qui était la modernité laissée par la colonisation, ce n'est pas l'œuvre des colonisateurs, ce n'est pas l'œuvre du capital. Ceux qui l'ont fait, ce sont nos grands-parents qui ont trimé très dur, qui étaient traités en esclaves, mais qui ont néanmoins su construire quelque chose que les pères irresponsables ont détruit. Donc on est... et je pense que ça, c'est aussi tout l'avenir de la création artistique en dehors de l'Occident. C'est que nous devons accepter que des artistes aujourd'hui travaillent à cheval. C'est-à-dire qu'à la fois, et tout à fait légitimement, je pense, ils produisent des œuvres pour que ces œuvres circulent sur le marché global. C'est à la fois une question de renaissance, mais aussi une question de survie. Et en même temps, ancrent ces œuvres profondément dans leur propre culture, en sachant très bien que, d'une certaine manière, leur possibilité de trouver une place dans la scène globale tient exactement dans leur capacité créative des reconstitutions des conditions internes, des conditions locales. Autrement, ils ne sont que l'un parmi des dizaines de milliers d'artistes qui, éventuellement, comme disait Chéri Samba, l'un de ceux qui ont fait carrière internationale, quand on lui disait « Mais toi, tu dis toujours que tes œuvres signifient quelque chose », ben, il dit « Écoutez, si les artistes occidentaux prétendent qu'ils n'ont rien à dire, c'est leur problème. Moi, j'ai toujours des choses à dire. »
D'autres questions ? Oui ? Entre parenthèses, Bogumil a joué un rôle considérable dans la connaissance, j'allais dire la reconnaissance de Chéri Samba, précisément, cet artiste devenu international.
J'avais une question également pour Bogumil Gefieviki. Vous nous présentez en fait des artistes qui réussissent à créer une espèce de transformation, ou vous parlez même de rupture dans les régimes d'historicité. Est-ce que vous pourriez qualifier ou conceptualiser ce régime d'historicité, c'est-à-dire, on parle de régime d'historicité patrimoniale dans d'autres contextes. En l'occurrence, moi, je me pose un petit peu les mêmes questions pour le sampling, par exemple, de morceaux ou d'éléments ancestraux dans les musiques hip-hop au Gabon. Et est-ce que vous pourriez qualifier ce régime d'historicité ? Est-ce qu'on parle d'un régime d'historicité ancestral ou autrement ? Voilà.
Non, sûrement pas ancestral, évidemment. Les qualifier, peut-être que la demande est beaucoup trop grosse pour mes capacités et pour le temps dont je dispose. Mais je pense que l'une des caractéristiques principales est la sortie du récit. C'est-à-dire que c'est aussi le problème, c'est que nous imaginons et nous tenons énormément à un monde construit du début jusqu'à la fin, un monde dans l'alignement des éléments, alors que les Congolais, enfin les Africains plus généralement, mais j'aime pas cette généralisation comme s'il y avait une qualité africaine quelconque, mais quand on construit l'essence du monde et la compréhension du monde performativement, on le construit par juxtaposition, par opposition, par les relations entre les éléments qui n'ont pas à chaque moment des productions d'essence les mêmes alignements, la même disposition. Donc, on peut très bien convoquer des ancêtres qu'on produit soi-même et qu'on produit d'une certaine manière à l'opposé de l'honorabilité ancienne, c'est-à-dire qu'on présente exactement en esclaves, dans le pur dénuement, y compris leur nudité. Et en même temps, on peut les convoquer comme ancêtres parce que, je pense, on se place en maître de son propre devenir. Et il me semble que c'est ça quelque chose, il faut que j'aide, que nous pouvons voir à travers l'Afrique, que nous regardons récemment Burkina Faso, que nous regardons le Sénégal, etc. Et dans la musique contemporaine africaine, c'est extrêmement clair. C'est des gens qui osent dire, des jeunes gens pratiquement toujours, nous avons le pouvoir d'échanger notre monde. Et donc, les prendre en main et de les reconstruire comme nous voulons. Y a-t-il une trame commune ? Peut-on déjà théoriser ces régimes d'historicité, j'en sais rien, je ne crois pas. Je crois qu'il faut les laisser courir, qu'il faut les laisser construire, qu'il faut une sorte d'observation attentive et reconnaissant toute la valeur dans cette création, y compris pour nous, pas seulement pour les Africains, mais il faut peut-être attendre avant de formaliser, parce qu'en même temps, toute formalisation, toute modélisation tue un peu les possibles qui... Et y compris, c'est possible que nous pouvons voir. Une fois que nous avons pris un schéma, donc que nous avons mis des lunettes, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons plus voir, même si elles sont évidentes. Donc peut-être qu'il faut, pour le moment, observer sans lunettes.
Merci beaucoup. D'autres questions? Je crois qu'il faut couper, là. D'accord. Écoutez, merci pour cette séance. J'aurais souhaité, mais juste un petit mot, que les deux historiens que vous êtes dialoguent ensemble, parce que un tout petit peu. C'est-à-dire que vous êtes des historiens de la même époque. Hein, de la même époque. Vous êtes l'Afrique et l'Europe ne sont pas loin dans ce temps-là, et que les violences ou les histoires racontées par Bougoumil, que pour ma part je connais un peu, sont pas du tout excentrées. Elles sont... C'est notre histoire. C'est la nôtre. Hexagonale, je dirais même. Hein,
oui,
hexagonale.
Temps, c'est l'histoire de tout le pays. Alors, de l'Europe de l'Est.
Et de l'Europe de l'Est.
Comment réinventer le monde après.
Et donc, bien sûr, on essaye tous de méditer pour qu'enfin ces histoires séparées se retrouvent ensemble. Mais il serait temps de le faire et que ça dialogue. Et peut-être que justement, l'art, enfin aujourd'hui, parce que toutes ces affaires circulent précisément. Hein. Il y avait une exposition Congo, beauté ou beauté Congo, oui, plus exactement, il n'y a pas longtemps, où tu étais d'ailleurs associé à cette exposition,
oui, non,
je crois.
Non, mais ça, c'est une opération tout à fait légitime des mises d'accent sur les valeurs esthétiques. Et je ne voudrais absolument pas que la mienne soit perçue comme négation des valeurs esthétiques. On peut les regarder comme ça, on peut les regarder autrement.
Sauf qu'on pouvait faire une lecture comme tu l'as faite de ce qu'on voyait. Il y avait des tas de choses
qui
avaient à
voir avec
ce que tu dis.
Mais bon, ils ont choisi.
Et donc, on voit bien comment toute cette affaire, hein, et même les objets d'ici, hein, qui d'ailleurs circulent depuis le XVIIe ou le XVIIIe siècle, ont à voir avec notre histoire, tout simplement. Alors, justement, précisément. Les historiens, et pas seulement les historiens, hein, toutes les autres disciplines feraient bien de causer. Voilà. Donc.
Ça, certainement.
Certainement.
Mais la MSH, c'est pour ça.
Oui, mais justement, on est là pour ça. Très bien. Donc, merci pour cette séance.